Merci d'abord à Dominique pour ses aimables paroles. À mon égard, elles sont bien nécessaires parce que mon sujet est très ingrat. C'est pas comme la boucle administrative dont vous avez entendu parler il y a 2 ou 3 jours. La boucle administrative, c'est une notion assez attrayante. L'idée de boucle évoque celle d'ornement, de chevelure, de coquetterie, de Tour de France peut-être aussi. Et l'indemnité de réparatrice, c'est pas la même chose. D'abord, c'est un lourd pléonasme. Le jour où vous verrez une indemnité qui n'est pas réparatrice de quelque chose, vous viendrez m'en parler. Donc c'est un sujet nettement plus ingrat dont je vais vous entretenir. Et quelle est la question qui se pose? Comment ce sujet, pour le profane, vient-il sur la table? Quelqu'un est victime d'un acte dommageable commis par l'administration, commis par les pouvoirs publics. Que va-t-il songer à faire? Il va songer à demander l'annulation de l'acte en question qui lui est dommageable, ou plus immédiatement sa suspension. Mais il va évidemment, si l'acte lui est dommageable, c'est mon hypothèse, demander réparation du préjudice qui lui est causé. Ça fait plusieurs choses qui pourraient être groupées devant la même juridiction, mais qui ne l'est pas toujours. En fait, il y a 3 solutions possibles. Ou bien on groupe toutes ces demandes, annulation, suspension éventuelle, réparation, devant les juridictions ordinaires, tribunal de première instance, que vous appelez cour de cassation. Ou bien on les groupe devant les juridictions administratives, essentiellement le Conseil d'État. Ou bien, 3e solution, on adopte un système mixte qui constitue une espèce de mélange des 2 solutions. C'est ce qui se passe en Belgique, dans d'autres pays aussi, pas en France. On sait bien que là, les juridictions administratives ont une compétence différente. Mais en Belgique, en tout cas, il y a un démembrement du contentieux administratif qui fait que l'administration est jugée tantôt par le juge ordinaire, tantôt par le juge administratif. Et ce qui fait, je m'excuse de rappeler pour ceux qui connaissent mieux que moi le droit administratif, ces évidences, mais je veux vraiment partir de la base du raisonnement, ce qui fait que, en Belgique, c'est le Conseil d'État qui a seule compétence pour annuler ou suspendre les actes de l'administration, tandis que seules les juridictions ordinaires peuvent condamner à une réparation du préjudice subi par la victime de l'acte de l'administration. Et ça, on le sait depuis bien longtemps, depuis presque un siècle, depuis l'arrêt La Flandria de la Cour de cassation de 1920, qui a dit que les pouvoirs publics étaient responsables comme un simple particulier, et que le simple particulier victime d'un acte des pouvoirs publics pouvait faire valoir ses droits subjectifs, ses droits civils, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, lesquelles étaient et sont toujours jusqu'à maintenant les seules compétentes pour ordonner une réparation. C'est ce que disait jusqu'à maintenant en tout cas l'article 144, ex-article 92 de la Constitution. Donc système dual, si vous voulez, système mixte, démembrement de cette compétence. Alors cette dualité, elle a été critiquée, bien sûr. Elle a été critiquée pourquoi? Parce que, mettez-vous à la place de la victime, vous devez, pour obtenir tout ce que vous souhaitez, c'est-à-dire l'annulation d'un côté, la réparation de l'autre, intenter 2 procès. C'est complexe, c'est lourd, ça coûte cher, bien entendu. Ça engendre des incertitudes, ça peut engendrer des conflits de compétences, des querelles entre les juridictions, ça peut faire naître des jurisprudences divergentes, ça peut provoquer des tas de problèmes de ce genre, ce qui fait qu'on s'est demandé évidemment s'il n'était pas préférable de grouper l'ensemble devant une seule juridiction ou un seul ordre de juridiction, soit ordinaire, soit administratif. Des voix se sont fait entendre pour grouper les demandes devant les juridictions de l'ordre judiciaire. La dernière proposition de loi, à ma connaissance, en ce sens, du sénateur Vandenberg, actuel bâtonnier de l'ordre néerlandais de Bruxelles, remonte à 2006, et qu'elle consiste à faire revenir tout le contentieux administratif au sein des juridictions ordinaires, dont le Conseil d'État n'aurait plus grand-chose à dire. Certains auteurs même disent qu'on pourrait supprimer le Conseil d'État. Ce qui, vous l'imaginez bien, a provoqué des réactions, assez vigoureuses d'ailleurs. On a parlé de l'illusion moniste, parce qu'on parle de monisme quand on veut tout regrouper devant un ordre de juridiction, et on parle de dualisme dans le système mixte qui prévaut jusque maintenant. Et donc cette illusion moniste, dit-on, a été sévèrement critiquée. On a dit que le recours pour excès de pouvoir institué devant le Conseil d'État était quand même un des piliers de notre ordre juridique et que ce serait une très grave régression que de le supprimer si l'on veut maintenir un état de droit. Donc maintien du dualisme ou alors basculement de l'autre côté. Ne supprimons pas le Conseil d'État, au contraire, augmentons ses pouvoirs. Certains ont pensé, et on y a même pensé en 1946, au moment où le Conseil d'État a été créé, et puis c'est un peu resté dans les sables, de donner au Conseil d'État la compétence d'ordonner la réparation du préjudice, donc de pouvoir condamner l'administration en faveur du justiciable. On a pensé, du moins certains, de lui donner cette compétence de manière exclusive. D'autres ont dit, mais pourquoi pas instaurer une espèce de dualisme. On ne retire pas cette compétence d'ordonner la réparation aux tribunaux de l'ordre judiciaire, mais on va la donner aussi au Conseil d'État. Et la victime, elle choisira entre les deux. Donc soit exclusivité, soit ce choix. Et c'est finalement cette solution-là qui a prévalu et qui vient de faire l'objet de cette loi que Dominique Lagasse a ébauchée tout à l'heure, l'objet de cette loi du 6 janvier 2014. C'est en quelque sorte un système dualiste, on n'est pas moniste puisqu'on a le choix d'aller devant les tribunaux ou devant le Conseil d'État, c'est un système dualiste amélioré, si vous voulez, par rapport à ce qui existait jusqu'à présent. Alors cette loi du 6 janvier 2014 qui émane d'une proposition de loi de plusieurs parlementaires, il ne faut pas la louper quand on consulte le moniteur du 31 janvier parce que c'est un peu dans les lois fourre-tout, elle prend à peine une page du moniteur, elle est située, tenez-vous bien, entre un texte sur la communauté germanophone et un texte sur la sécurité dans la ville de Bruxelles, donc des sujets qui n'ont absolument rien à voir, et vous avez là ces quelques articles sur le Conseil d'État. Essentiellement un article 6 de cette loi qui est devenu depuis le 6 janvier l'article 11 bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Pour ceux qui connaissent bien la loi sur le Conseil d'État, vous avez l'article 11 qui institue le contentieux de l'indemnité, j'y reviendrai, réparation du dommage exceptionnel dans certains cas, compétence un peu marginale, un peu résiduée du Conseil d'État, mais enfin elle est là quand même et depuis longtemps. Eh bien on vient d'ajouter maintenant l'article 11 bis qui est cette possibilité de choisir de demander la réparation du préjudice au Conseil d'État plutôt que devant les tribunaux. C'est un article qui comprend 5 paragraphes. Je ne vais pas vous les lire tous, ils sont d'un intérêt inégal. Les deux derniers, j'y reviendrai mais brièvement parce que c'est vraiment de la technique et de la procédure. Les deux derniers paragraphes concernent le choix qu'il faut faire. Les deux paragraphes précédents concernent la question des délais. Le paragraphe essentiel est celui-là, je vous le lis, est le premier. qu'est-ce qu'il dit. Et chaque mot, ou presque, a son poids. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet, en application de l'article 14, paragraphe 1er au paragraphe 3, peut demander à la section du contentieux administratif du Conseil d'État de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. Vous avez beaucoup de choses dans ce paragraphe. Qui peut agir? Pour quel motif? Qu'est-ce qu'il doit établir? Quelles sont les conditions de l'action qu'il va intenter? Qu'est-ce qu'il peut espérer obtenir? Je vais d'emblée vous dire que... Non, il y a une chose que je voulais... préciser d'abord, c'est que concomitamment à ça, je reviens à l'article 144 de la Constitution. L'article 144 de la Constitution qui disait depuis toujours, je crois depuis là que la Belgique existe, que seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour les droits subjectifs, pour juger des droits civils. Mais l'article 144, ou bien... Si l'on voulait adopter l'indemnité réparatrice ou bien l'article 144, on essayait de le contourner en disant que ce n'était pas vraiment des droits civils, mais des droits politiques. Certains ont songé à ça, mais c'était un peu se torturer les méninges pour arriver à une solution hasardeuse. On a préféré éliminer cette controverse-là, droit civil, droit politique, et carrément ajouter un alinéa 2 à l'article 144 de la Constitution. Et cet alinéa 2, qui est ajouté à la même date, mais qui est un peu plus loin dans le moniteur, du 31 janvier aussi, cet alinéa 2 dit « Toutefois la loi peut, selon les modalités qu'elle détermine, habiliter le Conseil d'État ou les juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets civils de leurs décisions. » Et voilà, dans la foulée de cela, alors, on a autorisé, évidemment, cette loi qui institue l'indemnité réparatrice. Alors, il y a deux choses, de mon point de vue de civiliste, et vous vous en doutez sans doute, dont je vais vous parler dans un instant, c'est cette notion d'illégalité, qui est ce que la victime doit prouver pour espérer obtenir son indemnité réparatrice. Elle doit prouver l'illégalité de l'acte du règlement ou de la décision implicite de rejet. Parenthèse, qu'est-ce que c'est? Moi, je ne le savais pas trop bien jusqu'à peu de temps, mais vous êtes plus calé que moi en droit administratif, probablement. Qu'est-ce que c'est qu'une décision implicite de rejet? Eh bien, l'article 14, paragraphe 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dit que quand une autorité administrative doit prendre une décision et qu'elle ne la prend pas, une partie intéressée peut la mettre en demeure de prendre sa décision, et si elle ne prend pas cette décision, l'autorité administrative, dans un délai de 4 mois, eh bien, elle est censée, à l'expiration de ces 4 mois, avoir pris une décision négative. C'est une espèce de fiction, de présomption. Elle est censée avoir pris une décision négative qui elle-même peut faire l'objet d'un recours. Et alors on retombe sur le recours en annulation tel qu'il est prévu dans le paragraphe 1er. Je referme cette parenthèse. Donc il y a cette notion d'illégalité. Je vais m'y étendre quelque peu. Ce sera mon premier point un peu important. Et le second, c'est bien entendu l'indemnité. L'indemnité réparatrice elle-même. Qu'est-ce que ça signifie de tenir compte des intérêts publics et privés? Comment, sur quoi ça peut déboucher, est-ce qu'il y a des précédents, enfin tout ça, je vais en parler dans un deuxième temps. Mais avant ça, je voudrais, non pas éliminer, mais enfin peut-être donner quelques précisions sur d'autres éléments de ce paragraphe premier que je vous ai lu, et d'abord sur le demandeur à l'action. Qui est-ce qui a le droit ? Il dirait que c'est la victime d'un acte de l'administration. C'est peut-être un peu plus subtil que ça. Qui est-ce qui a le droit de demander cette indemnité réparatrice ? Alors je vous rappelle, article 1er, paragraphe 1er, toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation. Toute partie requérante ou intervenante, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais il doit y avoir devant le Conseil d'État des procédures d'intervention forcée ou volontaire, analogues à celles qu'il y a devant le tribunal. Mais le Conseil d'État, l'autre Conseil d'État, si je puis dire, la section de législation, qui a examiné la proposition de loi qui a donné lieu à notre texte et qui a déposé un avis là-dessus, elle fait une observation intéressante qui est de dire, d'accord, ce droit est donné à la partie requérante ou intervenante, mais pourquoi n'est-il pas donné à la partie qui est susceptible d'intervenir en défense ? Pas en attaque contre l'acte en question, mais au contraire en défense, c'est-à-dire la plupart du temps le bénéficiaire de l'acte. Par exemple, la personne qui a été nommée, alors que c'est quelqu'un d'autre qui aurait dû être nommé à sa place et qui forme un recours en annulation. Pourquoi est-ce que cette partie intervenante-là, en défense, ne peut pas faire valoir ses droits aussi à indemnité, parce qu'elle, elle va subir un préjudice, non pas du fait de l'acte, évidemment, celui-là, par hypothèse, lui est favorable, mais du fait de l'annulation, si l'annulation est prononcée. Alors, quelle est l'intention du législateur ? Le Conseil d'État, section législation, a dit ceci. Poser la question, ce serait peut-être pas mal, dit-il, en d'autres termes, de clarifier cela. Hélas, ce n'a pas été clarifié dans le texte, donc il faut en conclure, me semble-t-il, que seules les parties telles qu'elles sont mentionnées ici ont ce droit. Alors, le choix. Electa ou navia, vous connaissez l'adage latin bien connu, on choisit une voie de recours, ça veut dire qu'on ne peut plus se rabattre sur la deuxième. Et c'est effectivement ce qui est prévu ici en termes très très rigoureux par les deux derniers alinéas de notre article 6 devenu l'article 11 bis des lois coordonnées, c'est que certes la victime a le choix. Elle n'est pas obligée de demander cette indemnité réparatrice au Conseil d'État. Elle peut préférer aller devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Mais ce n'est pas un cumul, c'est un choix. Et une fois qu'elle a choisi l'un des deux recours, elle ne peut plus se rabattre sur l'autre. Donc il n'est pas possible de demander en ordre principal, par exemple, une indemnité complète, une réparation intégrale devant les tribunaux, l'ordre judiciaire, et de se rabattre subsidiairement sur un recours devant le Conseil d'État. C'est vraiment un choix, c'est l'un ou l'autre. Et c'est à ce point rigoureux que même si on se désiste d'un des deux recours, on ne peut plus, tel que le texte est rédigé, on ne peut plus se rabattre sur un autre recours. Ce choix est le choix qui a été fait, une fois pour toutes, est irréversible, même dans l'hypothèse du désistement. Donc là, attention, je parle aux futurs avocats, conseil des victimes potentielles. Je reviendrai sur ce choix qui présente, vous vous en doutez, pas mal d'autres difficultés et de sujets de réflexion. C'est un choix qui est vraiment totalement irréversible. Quand vous lisez les deux derniers paragraphes, c'est assez clair. La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Et toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice. Donc là, c'est assez cadenassé. Et ce choix, dans quel délai doit-il être fait? Alors, je ne veux pas trop m'apesantir là-dessus, parce que c'est vraiment de la technique de la procédure, pas tellement mon point de vue de civiliste qui est intéressant, ce point de vue-là. Je vous dirais qu'en résumé, il y a deux délais. Il y en a un qui s'impose à l'avocat, à la victime, et un autre qui s'impose au juge, au magistrat du Conseil d'État. Le premier délai est un délai de 60 jours qui court à partir de l'arrêt qui a constaté l'illégalité de l'acte. Je reviendrai sur le fait qu'il suffit qu'un arrêt constate l'illégalité, il ne faut pas qu'on prononce l'annulation, ce n'est pas nécessaire. Un délai de 60 jours, donc 2 mois, qui laisse le temps de réflexion à partir de la constatation de l'illégalité, le temps de réflexion à la victime, à son conseil, de se dire eh ben, je vais devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, ou je vais, je reste, et je demande réparation devant le Conseil d'État. Et le magistrat, quant à lui, il dispose d'un délai supplémentaire, puisqu'il doit rendre sa décision dans les 12 mois, à partir du même événement, c'est-à-dire de l'arrêt qui constate l'illégalité. Que dit le paragraphe 2 de notre article? La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les 60 jours qui suivent la notification effectivement, de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les 12 mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Alors le Conseil d'État, section législation, a fait des remarques intéressantes, mais je ne vais pas entrer dans les détails là-dessus, en disant, oui, mais il y a l'hypothèse de la boucle administrative. Vous devez tenir compte, quoique la loi sur la boucle soit postérieure, et enfin, elle était déjà en projet à ce moment-là, hein, c'est une loi du 19 janvier, je crois, tandis que la loi dont je parle ici, l'indemnité réparatrice, est du 6 janvier, c'est peu importe. Et elle dit oui, mais ça ne marche pas tout à fait bien, votre système des 60 jours et 12 mois, le point de départ qui est choisi. En cas de boucle administrative, il faudrait nuancer les choses. Et on l'a fait. Là, le législateur a écouté le Conseil d'État. Pas toujours été le cas pour ses autres remarques, loin de là. Mais là, le législateur a ajouté un paragraphe 3 qui commence par « en cas d'application de l'article 38, etc. » Et l'article 38, c'est effectivement l'article qui introduit la boucle administrative dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État. Je ne vais pas entrer plus dans ces détails-là. Un mot encore avant d'arriver à mes deux points principaux sur le droit transitoire. Dominique Lagasse vous a dit que cette loi va être bientôt d'application. C'est vrai, elle entrera en vigueur le 1er juillet. Donc dans 3 mois. Elle entre en vigueur le 1er juillet. C'est une loi de compétence ou de procédure. Est-ce que elle va être d'application immédiate en principe? Oui, comme toute loi de compétence ou de procédure. Mais là aussi, le Conseil d'État, section législation, s'est dit que ça risque de perturber quand même pas mal les victimes qui seraient en plein délai de réflexion, de choix, sur le choix qu'elles vont faire entre une action ou l'autre. Donc on va retarder quelque peu, le législateur l'a fait, le point de départ de l'entrée en vigueur de la loi. Et vous verrez ce qui était prévu à ce point de vue-là, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Alors, je reviens à mes deux points principaux après avoir un petit peu déblayé les points dont je viens de vous parler. L'illégalité d'une part, l'indemnité d'autre part. Et d'abord l'illégalité. Vous l'avez entendu, c'est la seule chose que la victime doit prouver. Un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte. Quand je dis c'est la seule chose, attention. Si on veut être complet, c'est une action en responsabilité. Comme toute action en responsabilité, que ce soit devant le Conseil d'État ou devant les tribunaux ordinaires, il y a trois choses. Il y a la faute, ici remplacée par l'illégalité, je vais y revenir dans un instant, mais il y a aussi, bien sûr, le dommage, elle doit prouver son dommage, et elle doit prouver le lien de causalité entre les deux. Ça, c'est vraiment l'ABC de tout procès en responsabilité. Mais ce qui est original et qui pose problème ici, c'est qu'on ne parle plus de la faute. On parle de l'illégalité. On dit il faut, mais il suffit de prouver que l'acte, quand je dis l'acte, c'est le règlement ou la décision implicite de rejet, disons grosso modo l'acte, est illégal et ça suffit. Il ne faut pas prouver de faute, c'est important. Vous êtes la victime. Quand vous avez un procès devant le tribunal ordinaire fondé sur l'article 1382, ben, la preuve de la faute pose très souvent un problème. Pas facile, ou avec une expertise, souvent, enfin, c'est une preuve souvent difficile à rapporter. Ici, il y a identité entre l'illégalité et la faute, puisqu'on dit, on ne parle pas de faute, c'est vrai, mais l'illégalité démontre automatiquement la faute de l'administration sans qu'on doive nécessairement la prouver. Et deuxième chose qui facilite aussi le travail de la victime, c'est qu'il ne faut pas qu'elle demande et il ne faut pas qu'on prononce par conséquent l'annulation, il suffit que l'illégalité soit constatée par un arrêt. Et là, on avance aussi à la boucle administrative, parce que dans l'hypothèse de la boucle administrative, il n'y a pas d'acte qui prononce l'annulation, puisque précisément l'objet même de la boucle administrative, c'est de corriger la situation. Donc il suffit, il faut, mais il suffit encore une fois, d'un arrêt qui constate l'illégalité. Donc c'est pas mal pour la victime jusqu'à présent. C'est encore mieux quand on lit l'avis du Conseil d'État, section de législation, qui dit ceci. En retenant l'illégalité de l'acte comme fait générateur du dommage, la nouvelle disposition fait perdre, dans le contentieux porté devant le Conseil d'État, toute portée utile à la controverse sur l'unité ou la dualité des notions de faute et d'excès de pouvoir, qui a traversé la jurisprudence et la doctrine pendant une quarantaine d'années. La sécurité juridique y gagne. Et alors ceci, que je souligne, l'autorité sera en principe tenue de réparer le préjudice en l'absence de toute faute, et donc lorsque l'illégalité provient de circonstances qui lui sont étrangères. Donc, c'est en tout cas l'interprétation du Conseil d'État dans son avis sur la proposition de loi, même quand il y a une cause étrangère, même quand l'illégalité de l'acte est due à une cause étrangère, eh bien il y a responsabilité de l'État. Alors ça c'est très important parce que c'est toute la problématique des causes d'exonération qui semble là être tranchée un peu à l'emporte-pièce, je trouve, parce qu'on aurait pu analyser ça de manière plus attentive. la seule réserve que fait le Conseil d'État, toujours section législation dans son avis, la seule réserve au point de vue cause d'exonération, où le Conseil d'État vient au secours de l'administration, c'est l'hypothèse où l'illégalité provient d'une faute ou d'une erreur commise par le bénéficiaire lui-même de l'acte, qui aurait donné des renseignements erronés, par exemple, à l'administration, qui se serait fondée, induite en erreur, par ces renseignements. Alors là, le Conseil d'État, dit l'administration a pu se laisser abuser par des informations erronées, elle est de bonne foi, elle a fait preuve de la prudence requise, on va considérer qu'elle n'est pas responsable. Ah bon. D'abord, c'est peut-être contestable en soi, parce que ce n'est pas prévu par le texte. Et en plus, si on prévoit cette cause d'exonération-là, pourquoi pas les autres ? Alors là, où ça pose un problème plus fondamental, c'est qu'en fait, on a institué une espèce de super obligation de résultat. Pardonnez-moi de revenir à ma terminologie de civiliste. Obligation de moyens, de résultats. L'obligation de résultats, c'est la non-obtention du résultat, ici c'est l'illégalité de l'acte, elle permet quand même en droit commun de s'exonérer en prouvant la force majeure, la cause étrangère, le cas fortuit. Ici même pas, on va plus loin même qu'une obligation de résultat. C'est pour ça que je parle d'une super obligation de résultat, on va presque jusqu'à une obligation de garantie quand on lit le texte de la loi. Obligation qui fonde la responsabilité de l'État dans tous les cas, même quand il y a une cause d'exonération. Est-ce que c'est réellement ça que le législateur a voulu ? Hélas, l'avis du Conseil d'État, dont je viens de vous lire, de vous commenter certains passages, n'est pas très éclairant à ce point de vue-là. C'est tout le problème, en fait, qui ressurgit de l'unicité entre la faute et l'illégalité. Et ça, on remonte en fait à une jurisprudence de la Cour de cassation des années 80. Et je crois que le législateur, quand on lit l'exposé des motifs, il y fait allusion. Le législateur en revient en fait à cette jurisprudence de la Cour de cassation qui dit quoi ? Arrêt de 1982, qui n'a pas été démenti depuis lors, au contraire, confirmé par des arrêts récents, qui dit que quand il y a une illégalité, les pouvoirs publics, l'administration est automatiquement constituée en faute. Donc l'illégalité débouche nécessairement sur la faute, sauf, dit l'arrêt de 82, s'il y a une erreur invincible ou une autre cause d'exonération de responsabilité. Alors ça, on n'est plus dans ma super obligation de résultat ou de garantie. On est dans un système qui est celui de la Cour de cassation à propos de cette identité de la faute et de l'illégalité. Et rien ne permet de dire, ni dans les travaux préparatoires, ni dans l'avis du Conseil d'État, ni dans le texte de la loi, qu'on ait voulu s'écarter de cette jurisprudence de la Cour de cassation. Ce qui veut dire que ma question c'est cuite en définitive des causes d'exonération qui sont un sujet qui revient presque tout le temps quand on met en cause la responsabilité de l'erreur invincible. On pourrait faire un exposé ou plusieurs exposés entiers sur la notion d'erreur invincible. L'administration qui s'est laissé un petit peu devancer ou qui n'a pas aperçu un futur revirement de jurisprudence ou qui a mal interprété un texte de loi, est-ce que c'est une erreur invincible ou non, exonératoire ou non, C'est une problématique tout à fait existante. Alors, il n'y a pas que ça. Je crois qu'on ne peut pas écarter cette jurisprudence des années 80 de la Cour de cassation, qui parle de cause d'exonération, qui les prend en considération. Et on peut d'autant moins écarter cette jurisprudence, je pense, que la Cour de cassation n'a fait qu'évoluer depuis lors dans un sens de plus en plus favorable, presque laxiste, à l'égard de l'administration. Vous me contredirez peut-être, mais c'est ce que je lis quand je prends connaissance des examens de jurisprudence. Encore maintenant, on discute devant des juridictions de fond, même pas la Cour de cassation, mais dans un des numéros de la JLMB du mois de mars maintenant, vous avez deux jugements, un jugement du tribunal de première instance de Liège, un autre du tribunal de première instance de Huy, qui se prononcent, bien entendu, une espèce n'était pas l'autre, mais l'un en faveur de l'unicité, faute, illégalité, et l'autre contre. C'est vous dire que c'est loin d'être du béton, on est toujours en pleine discussion, donc je repose ma question avec encore plus d'acuité. Qu'est-ce qu'il en est dans cet article premier, et pas grand-chose dans les textes ne nous éclaire à ce point de vue-là, de cette jurisprudence évolutive de la Cour de cassation des juridictions de fond sur la question fondamentale, à mon avis, des causes d'exonération? Je crains fort, si c'est le point de vue de la victime qui prévaut, que la faute qui était sortie par la porte, eh bien, elle revient par la fenêtre d'une certaine manière, parce que cette jurisprudence est, je vous dis, assez favorable à l'administration. Il y a même un arrêt, je ne sais plus très bien de quelle année, mais c'est dans les années 2000, qui dit qu'il suffit à l'administration, pour s'exonérer, de prouver qu'elle n'a pas commis de faute. Alors là, on est entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat. C'est un peu une obligation de moyens parce qu'on prend en considération la faute. C'est vrai que l'administration, c'est elle qui doit prouver qu'elle ne l'a pas commis. Ce n'est pas à la victime de prouver qu'elle a commis une faute. Donc on est à mi-chemin. C'est peut-être une jurisprudence isolée, mais ça ne paraît pas d'après ce que j'ai lu. On est à mi-chemin entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat. Je clôt ces quelques réflexions sur les causes d'exonération. Autre problème, à propos toujours de cette notion d'illégalité de l'acte. On dit, et on dit depuis toujours, que la responsabilité de l'administration, elle peut être engagée pour deux sortes de choses. Soit pour la violation, la méconnaissance d'une norme, de droit interne ou de droit international, soit parce qu'elle ne s'est pas conduite comme un homme normalement prudent et diligent, elle a commis une erreur de conduite sans qu'elle ait pour autant violé, méconnu un texte précis. C'est l'un ou l'autre. Donc, la victime, elle peut être victime de l'un ou l'autre de ses actes. Eh bien, moi, j'ai l'impression que la loi dont je parle n'a envisagé que la première hypothèse, qui est celle où il y a une norme bien précise que l'on reconnaît être illégale. Boum, responsabilité automatique, cause ou pas cause d'exonération, je ne vais pas reparler de ce que j'ai dit il y a un instant. Mais si c'est une simple erreur de conduite, si c'est par exemple, on retrouve dans la jurisprudence, l'administration qui ne réagit pas à temps, dans un délai raisonnable, sans être tenue par un délai qui résulte d'une norme bien particulière, mais ou bien l'administration qui laisse se développer une apparence trompeuse, des hypothèses de ce genre-là, pas de violation d'une norme bien précise. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que la victime de ça peut se prévaloir de notre indemnité réparatrice? Je n'en suis pas certain du tout, à moins de considérer que l'article 1382, alors on met tout dedans, l'article 1382, y compris les principes de bonne administration, ont moins de considérer que 1382 est une norme suffisamment précise pour qu'on puisse dire qu'on se retrouve dans la première hypothèse. Mais ça, je crois que c'est vraiment aller très très loin. Donc, mon interrogation subsiste. Si c'est une simple erreur de conduite, est-ce que l'indemnité réparatrice s'applique ? Voilà ce que je voulais dire à propos de cette question d'illégalité de l'acte. L'indemnité elle-même, maintenant. L'indemnité réparatrice, dit toujours cette alinéa premier, doit être calculée en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. On a repris là la terminologie qui existait déjà dans l'article 11, donc dans le contentieux de l'indemnité. Et dans l'exposé des motifs, on fait des rapprochements entre cette nouvelle indemnité réparatrice et l'article 11 en question, le contentieux de l'indemnité, et aussi avec l'article 1380. On va un peu pêcher, là, dans notre nouvelle indemnité, des choses dans l'article 11, d'autres choses dans l'article 1382, et on souligne aussi les différences, bien entendu, entre ces dispositions. Grosso modo, par rapport à l'article 11, donc contentieux de l'indemnité, quelle est la différence ? C'est que dans ce contentieux de l'indemnité dont j'ai rappelé tout à l'heure, qui était quand même assez marginal, résiduaire aussi, puisqu'il ne fonctionne, on ne peut y faire appel que s'il n'y a aucun autre recours possible. On parle là, dans le contentieux de l'indemnité, d'un dommage exceptionnel, pas ici, dans notre indemnité réparatrice. Il suffit d'un dommage simple, en quelque sorte. L'article 11, le contentieux de l'indemnité, il est indépendant de toute illégalité. Au contraire, dans notre cas, je viens d'en parler, l'illégalité, elle est bien là, et elle pose le problème que j'ai évoqué. Dans l'article 11, on parle de l'équité. Ici, on ne parle pas d'équité. Je crains fort qu'elle soit... Enfin, je crains. Je crois qu'elle est malgré tout sous-jacente. Quand on dit qu'il faut tenir à la fois compte des intérêts privés et des intérêts publics, c'est très vague, c'est aussi vague que l'équité. Je crois que toutes ces notions finissent par se mêler, même si elles ne sont pas toutes dites expressément dans l'article. Mais on n'a pas voulu mettre l'équité. Pourquoi ? Parce que, et alors là, c'est le rapprochement avec l'article 1382, on a voulu quand même donner un caractère indemnitaire à cette indemnité. Je soulignais le pléonasme tout au début. Cette indemnité doit être réparatrice. Donc, elle doit réparer un dommage, elle doit avoir un caractère indemnitaire, et ça, ça rapproche beaucoup plus de l'article 1382 du Code civil que de l'article 11 des lois sur le Conseil d'État. On a rappelé, c'est quand même intéressant de s'en souvenir, que le principe dans le Code civil 1382, c'est la réparation intégrale. Donc c'est pas la réparation réduite ou tenant compte des éléments privés ou publics, et on va parler de ce calcul dans un instant. Le principe, c'est la réparation intégrale en droit civil, sauf dans un cas qui a donné lieu à d'immenses discussions à l'époque, c'est la responsabilité des déments, des malades mentaux. 1386 bis. Et là, c'était peut-être déjà une préfiguration des indemnités plus ou moins réduites qu'on va retrouver dans des législations comme celle-ci. Là, le législateur, c'était dans les années 30, a admis dans le Code civil, c'était révolutionnaire, que ce ne soit plus le principe de la responsabilité intégrale pour les malades mentaux, mais que le juge puisse tenir compte de toute une série d'éléments en équité, ex aequo et bono, et notamment l'état de fortune des parties, chose qui était vraiment tout à fait nouvelle. Voilà, je clôt cette parenthèse. C'était la préfiguration, déjà dans le Code civil, d'indemnités telles qu'on va les retrouver dans des tas de cas de responsabilité objective, dont je vais parler maintenant dans un instant, et dans notre indemnité réparatrice dont nous parlons aujourd'hui. Voilà ce qui à la fois rapproche et éloigne cette indemnité réparatrice de ces deux textes fondateurs, si je puis dire, l'article 11, contentieux d'indemnité, et l'article 1382 du Code civil. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression vague de tenir compte des intérêts publics et privés? Le Conseil d'État, quand il va allouer une indemnité réparatrice, devra, une obligation, tenir compte des intérêts publics et privés en présence. Tenir compte des intérêts privés, c'est l'intérêt de la victime. Donc ça va aller dans le sens de la réparation intégrale, ça jouera à la hausse. Tenir compte des intérêts publics, je vois mal autre chose que un mouvement qui irait à la baisse, en tenant compte, bien entendu, de l'état des finances publiques. On ne prend pas cet élément-là, mais ça va jouer. Alors, ce que je crains un peu, mais c'est plus une réflexion de politique législative que de technique juridique, c'est qu'on arrive dans cette jurisprudence à venir du Conseil d'État sur l'indemnité réparatrice à une réduction de la réparation intégrale et une réduction un petit peu systématique, une espèce de barémisation, comme on voit parfois dans certains domaines, qui évidemment ne couvrira pas l'entièreté du dommage, à des espèces d'évaluations ex aequo et bono, tout facteur, mode de calcul, plafonnement, qui vont aller à l'encontre de la réparation intégrale. Alors là aussi, le Conseil d'État, section de législation, a voulu se montrer rassurant, et d'une manière qui m'a paru assez amusante, il faut bien le dire. Je ne sais pas si vous partagerez mon amusement, mais il a dit ceci. Il ne faut pas trop s'en faire, a-t-il dit, à propos de cette future jurisprudence du Conseil d'État, des craintes qu'on peut avoir d'indemnité qui ne soit pas trop réduite par rapport à ce que la victime pourrait obtenir devant les tribunaux ordinaires. Il dit, le Conseil d'État, il appartiendra à la jurisprudence d'en fixer les contours précis de l'indemnité. Compte tenu de l'alternative qui est offerte au justiciable de choisir entre la voie judiciaire et l'application du nouvel article 11 bis, il est peu probable que l'indemnisation accordée par le Conseil d'État soit substantiellement moindre que celle qui résulte de la jurisprudence de l'ordre judiciaire, car cela aurait pour effet de détourner les justiciables de l'indemnisation par le Conseil d'État. Je ne sais pas ce que ça provoque comme réaction chez vous, mais est-ce que vous pensez que le Conseil d'État, investi de sa nouvelle mission, va se dire « Ah, on va faire une jurisprudence là assez favorable aux victimes pour les attirer chez nous ?» Moi, je ne suis pas au Conseil d'État, mais je crois au contraire qu'avec le peu de moyens dont il dispose et l'engorgement dont il est affecté, malheureusement, le Conseil d'État va plutôt dire, allez, continuez à aller dans les juridictions d'ordre judiciaire. De là à dire, comme le Conseil d'État dit lui-même, les sections législation ont dit, on va faire une jurisprudence favorable pour attirer les victimes, je suis évidemment sceptique. Donc, les quelques propos rassurants à propos de cette jurisprudence ne me rassurent pas du tout. On va arriver, je crains, mais je suis peut-être trop pessimiste, on va arriver à ajouter un cas de responsabilité objective à tous ceux qui existent déjà. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité objective ? C'est la responsabilité qui peut être mise en cause sans devoir prouver la faute. Ça, c'est vrai. Bon, j'en ai parlé. Ça existe dans des tas de domaines, déjà. La responsabilité du fait de produits défectueux, responsabilité en matière nucléaire, en matière de navigation aérienne, la loi de 2007 sur les dommages provoqués par les soins de santé. Dans des tas de domaines particuliers comme ça, on a des responsabilités objectives. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prouver la faute, ce sont des responsabilités sans faute. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce sont des responsabilités qui sont donc plus facilement mises en cause parce qu'il ne faut pas prouver la faute, mais qui vous donneront un résultat raboté par rapport à la réparation intégrale que vous pourriez obtenir sur la base de 1382. Dans tous ces cas-là, ceux que je viens de citer, vous avez des plafonnements, vous avez des indemnités plus ou moins forfaitaires. Alors, différents régimes sont possibles. Hein. Vous avez soit des régimes qui sont complémentaires, comme celui des accidents du travail, vous avez une partie là en loi, comme on dit, avec un complément en droit commun, donc vous avez le principal et le complément. Ou bien vous avez un régime où vous pouvez choisir, où vous devez choisir entre l'un et l'autre, c'est ce dont on parle. C'est l'indemnité réparatrice, vous devez choisir entre 1382 devant les tribunaux ou l'indemnité réparatrice devant le Conseil d'État. Ou vous avez encore, c'est une troisième possibilité, une indemnité forfaitaire qui a complètement remplacé l'indemnité de droit commun. Prenez les indemnités de procédure, par exemple. Je m'adresse aux futurs avocats parmi vous, ça peut les intéresser. Le régime actuel des indemnités de procédure qui est en vigueur depuis 2008, eh bien, c'est une indemnité forfaitaire, évidemment réduite par rapport à ce que coûte réellement l'intervention d'un avocat. Mais c'est une indemnité forfaitaire qui a remplacé tout simplement la jurisprudence de ce fameux arrêt de la Cour de cassation de 2004, du 2 septembre 2004, si je me souviens bien, dont on a beaucoup parlé à l'époque, qui avait ouvert une brèche dans l'indemnisation des frais de défense et qui permettait, lui, une indemnisation complète de la partie qui avait gagné son procès. Et puis ça a donné lieu à pas mal de discussions et le législateur est intervenu pour remplacer ce système-là par un système forfaitaire qui est celui des indemnités actuelles de procédure. Je ferme la parenthèse là-dessus, mais c'est pour vous dire que ces régimes de responsabilité objective, ils sont de diverses sortes, mais tous, et c'est ça qui m'importe ici, arrivent au travers d'une mise en œuvre sans doute plus facile, avec des exigences de preuves atténuées, sans doute, mais arrive à des résultats moins intéressants. Autre exemple récent, la législation sur les actions collectives, les recours collectifs, les class actions. C'est aussi une législation qui, sous le couvert, je crois que l'intention du législateur est souvent en toute bonne foi d'essayer d'améliorer la situation des victimes ou des consommateurs, ici, quand on parle des class action. On veut améliorer la situation, mais on arrive à des résultats qui ne correspondent pas vraiment à l'intention du législateur, malheureusement. Alors, écoutez, par exemple, ce que Pierre Van Hammeslagh disait de ça, éminent civiliste s'il en est, qui exprimera le point de vue des civilistes là-dessus beaucoup mieux que moi, il dit, toujours à propos de la class action, elle est incompatible avec le principe de la réparation intégrale du dommage, la loi qui a été récemment adoptée là-dessus. Pourquoi ? Cette incompatibilité, dit-il, paraît d'autant plus grave que notre droit de la responsabilité civile assure une protection particulièrement étendue des victimes et un régime très favorable de la réparation de leurs dommages. Il serait donc paradoxal de les en priver, fût-ce partiellement, par le biais d'une institution destinée, au contraire, à assurer leur protection. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette loi, mais comme beaucoup d'autres qui instituent des responsabilités objectives, je voudrais souligner ce paradoxe qui est qu'on veut améliorer la situation des victimes ou des consommateurs, mais par des législations un peu à l'emporte-pièce, en tout cas où on n'a pas réfléchi à toutes les incidences de ce qu'on décidait, et on finit par aboutir à des résultats qui sont le contraire de ce que des bonnes intentions du législateur. Donc, pour me résumer, je crains qu'on arrive, on verra ce que sera cette jurisprudence future du Conseil d'État. Elle sera peut-être excellente. Pas nécessairement parce qu'elle donnera tout ce qu'elle veut aux victimes, il faut maintenir un certain équilibre. Je peux comprendre que l'intérêt public puisse commander certaines choses ou certaines restrictions. Ce sera peut-être une très bonne jurisprudence, l'avenir nous le dira. Mais j'ai des craintes que, je le répète, on arrive à des régimes un petit peu comme tous ceux que j'ai cités à titre d'exemple, ces régimes de responsabilité objectif. Alors, je me résume dans l'évaluation que je fais finalement de cette nouvelle loi, de cette indemnité réparatrice. Il y a du bon, il y a du mauvais, vous vous en doutez. Enfin, je suppose que c'est votre avis aussi. Il y a du bon, bien sûr. L'objectif affiché par le législateur, c'était deux choses. C'était économie de procédure et gain de temps. Économie de procédure, oui, bien sûr, pour pouvoir tout concentrer devant une seule juridiction plutôt que de devoir aller devant deux juridictions différentes avec tout ce que ça représente comme coût, etc. Bien sûr que c'est mieux. Gain de temps, là, plusieurs d'entre vous connaissent mieux que moi la situation du Conseil d'État et son engorgement que j'évoquais tout à l'heure. Ce sera peut-être un gain de temps. Mais en attendant, le Conseil d'État va recevoir et devoir digérer cette compétence supplémentaire, si on ne lui donne pas les moyens de pouvoir assimiler et digérer tout ça, je ne sais pas très bien où sera le gain de temps. Et quant au fond, oui, il y a des choses certainement positives. Par exemple, le fait qu'il ne faille pas nécessairement prononcer l'annulation, mais qu'un simple arrêt constatant l'illégalité soit suffisant pour déclencher la responsabilité, c'est certainement une facilité. Alors, sur la question unicité, illégalité, faute, application de la jurisprudence de la Cour de cassation de 1982 avec toute son évolution que j'ai évoquée tout à l'heure, là, on arrive dans les points d'interrogation, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, la question des causes d'exonération, la question de la prise en considération des erreurs de conduite qui ne sont donc pas la violation d'une norme déterminée. Qu'en est-il de tout ça? La jurisprudence l'expliquera. Ce que je m'étonne un petit peu quand même, c'est que le Conseil d'État, ou bien je me pose des questions oiseuses, ou bien le Conseil d'État, section de législation, n'a pas aperçu certaines choses quand il a examiné cette proposition de loi. Et je terminerai en disant, c'est une réflexion d'avocat, le dilemme dans lequel la victime et son avocat vont être placés est un dilemme vraiment difficile. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, parce que le choix, j'ai insisté là-dessus, est irréversible. Une fois qu'on a choisi juridiction de l'ordre judiciaire ou Conseil d'État, c'est fini, on a choisi. Mais il y a d'autres facteurs qui vont jouer. Je dirais que, grosso modo, le choix du Conseil d'État est plus facile pour les conditions de la mise en cause de la responsabilité, tandis que choisir les juridictions de l'ordre judiciaire sera plus favorable quant au résultat. Les conditions, le résultat. Alors sur quoi ? Ça dépendra du cas qui vous est soumis, bien entendu. Un cas n'est pas l'autre. Sur quoi allez-vous mettre l'accent ? Sur la facilité des conditions ? Sur les plus grandes, plus ou moins grandes espérances d'obtenir un résultat favorable ? Ce sera à discuter dans chacun. Les conditions, incontestablement, sont plus favorables si on choisit le Conseil d'État. Il ne faut pas prouver la faute. Cause d'exonération, ça reste un peu nébuleux, je vous l'ai dit. Tandis que dans le résultat, il y a une chose dont je n'ai pas encore parlé, mais qui a son importance aussi, c'est le degré de juridiction. Si vous choisissez l'ordre judiciaire, vous avez trois degrés de juridiction. Première instance, appel, cassation. Ça prend plus de temps, bien entendu. Enfin, vous avez quand même cette garantie fondamentale de la défense de quiconque de pouvoir faire soumettre votre cas à plusieurs juridictions successives. Au Conseil d'État, vous n'avez pas ça. Est-ce que ça va plus vite pour autant ? Je ne sais pas. Mais vous n'avez pas ces trois degrés de juridiction. Donc, ça, c'est aussi un élément. Il va falloir prendre en compte, suivant l'hypothèse, le cas que vous aurez à traiter. Et alors, dans le résultat, il y a, bien entendu, et ça sera sans doute déterminant dans beaucoup de cas, c'est réparation totale devant le tribunal de l'ordre judiciaire, parce que ça reste la règle, et le juge, je vous le rappelle, doit accorder la réparation totale devant le tribunal de l'ordre judiciaire. Il ne peut pas, sous réserve, sous peine d'encourir la cassation, le juge, sauf dans des cas exceptionnels, quand il n'a vraiment pas les éléments pour, il ne peut pas se dire « je vous accorde exequo et bono autant ». Non, il doit vous accorder la réparation intégrale. C'est quand même une garantie très forte. Tandis que le Conseil d'État, quelle sera sa jurisprudence ? Ça, c'est évidemment un point d'interrogation. Donc, différence entre les conditions et le résultat, je crois, la conclusion la plus tangible que l'on peut tirer de cette comparaison entre les deux. Voilà, je vous remercie.
En votre nom à tous, je remercie chaleureusement François Ganzorf pour cet exposé passionnant qu'il vient de nous faire, et je dois dire avec le professeur Goffaut qui nous a rejoint que les organisateurs de ces trois conférences se félicitent d'avoir invité François Ganzorf parce que ça nous montre combien il est important de temps en temps de sortir de sa spécialisation pour s'ouvrir à l'extérieur et entendre un autre son de cloche que celui qu'on a toujours l'habitude d'entendre. Monsieur le professeur François Ganzorf a en effet mis le doigt sur certaines difficultés auxquelles nous, spécialistes du droit administratif, nous n'avions peut-être pas songé. Alors, voici venu le temps des questions et des réponses, et je ne doute pas qu'il y en a qui sont impatients d'en poser à Monsieur Ganzorf. Qui se lance ? Je vais peut-être vous faciliter la tâche en posant la première question. Parce que, effectivement, M. Glandorf nous a bien résumé les choses il y a un instant en disant qu'il y avait peut-être une facilité quant à remplir les conditions mises par le législateur pour obtenir l'indemnisation, mais un doute, en tous les cas, pour ne pas dire une certitude, qu'on n'aura pas une réparation intégrale, que la victime n'aura pas une réparation intégrale. Mais il y a un aspect des choses dont il n'a pas parlé, mais dont on pourrait maintenant parler, c'est la durée d'une procédure en réparation qui implique 9 fois sur 10 la désignation d'un expert judiciaire. Ce qui, devant le Conseil d'État, est rarissime. Je ne dis pas que c'est inconnu, mais c'est rarissime. Alors, je ne veux pas insinuer l'idée que le Conseil d'État aurait des difficultés à désigner des experts judiciaires, pas du tout. Mais dès le moment où on lance une procédure d'expertise judiciaire, les avocats dans la salle en sont bien informés, ça signifie un allongement considérable de la procédure. Et donc, tout à l'heure, M. Glanzhoff parlait des moyens humains que le législateur n'a pas pensé à donner, des moyens supplémentaires à donner au Conseil d'État, mais il faut aussi songer à cette durée de la procédure supplémentaire que quasi nécessairement la désignation d'un expert judiciaire pourrait donner. Alors, le législateur a dit « Ah ben, ça ira beaucoup plus vite d'obtenir la satisfaction, enfin pas la satisfaction, mais la réparation, l'indemnité réparative devant le Conseil d'État. » Mais, vous l'avez dit tout à l'heure, on gagne l'assignation en justice qu'on ne va pas devoir rédiger et relancer devant le tribunal, mais à part cela, y aura-t-il véritablement un gain de procédure? Il n'y aura pas d'appel, il n'y aura pas de cassation, mais il n'y a pas que des avantages à cette suppression des degrés de juridiction, vous l'avez dit tout à la fin. Et donc, on risque d'avoir un petit gain pour, au bout du compte, avoir quand même une très longue procédure d'expertise judiciaire qui devra se terminer, au bout du compte, devant le Conseil d'État. Alors, j'aperçois un doigt qui se lève dans la salle.
Oui, parce que vous dites en matière de détermination du tribunal, on peut imaginer aussi des expertises pour le Conseil d'État, parce que je n'imagine pas qu'on puisse trouver la solution qui est au niveau de l'évaluation de l'image. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se dire qu'on aura des expertises devant le Conseil d'État et qui va se...
C'est ce que j'étais en train de dire. Je suis mal exprimé, peut-être. Oui, j'ai deux doigts. D'abord, celui-là.
Oui, il y a un an, nous avons invité Françoise Tulkens au Conseil d'État pour nous parler de ce qui s'était passé à Strasbourg. Et elle nous a fait un tableau apocalyptique de l'évolution de la jurisprudence. Et maintenant, le calcul de l'indemnité prend plus de temps que la constatation de la méconnaissance de la Convention de sauvegarde. Au début, on pensait à l'indemnité réparatrice, à une indemnité ex aequo et bono. Les avocats sont venus avec des décomptes, ont parfois obtenu l'expertise. Et maintenant, c'est devenu...
À Strasbourg, il y a des expertises.
Ah oui, oui. Et c'est devenu une réparation comme devant le juge judiciaire. Et donc, bon, là, c'est plus l'oreille cassée, c'est le prophète de l'étoile mystérieuse. J'ai l'impression qu'il y a une énorme épée de Damoclès qui pend au-dessus de notre tête et que ça risque de déraper. Et l'autre question que je voulais poser, c'est que vous avez appris le principe de, pas de la réparation par équivalent, mais de la réparation en nature et son équivalent au Conseil d'État. Et c'est le grand plus du contentieux de l'excès de pouvoir, c'est l'annulation avec effet rétroactif. Et erga omnes, l'acte administratif est réputé n'avoir jamais existé. Si on prend l'exemple d'un permis d'urbanisme, celui qui en obtient l'annulation pourrait obtenir la démolition de l'immeuble, théoriquement à moins. Et ce qui risque de se passer, et moi je vois les choses peut-être trop en noir, c'est que plutôt que d'annuler, on va s'appuyer sur cette possibilité d'obtenir une indemnité réparatrice, on va déclarer l'acte illégal sans pour autant l'annuler, et on octroiera quelque chose au requérant, et en attendant, les choses resteront en état, et c'est tout ce qu'il aura obtenu, et ça c'est fondamental aussi.
Merci pour cette précision très utile. Il faut savoir que M. Jean-François Neuret, premier auditeur, chef de section au Conseil d'État, et donc il parle en connaissance de cause.
Oui, oui.
On craint évidemment le délai que le Conseil d'État mettrait à se prononcer sur la question de l'indemnité et de l'indemnisation, mais on omet, je pense, de rappeler qu'il y a quand même un délai qui lui est fixé, qui est ce délai d'un an.
C'est vrai.
Oui, mais quelle est la sanction?
Alors, bien, effectivement, que se passera-t-il le jour où le Conseil d'État ne respectera pas ce délai? Mais il ne faut quand même pas oublier que le délai existe.
Oui, les trois premiers arrêts, respectons le délai, et puis ce sera...
Il n'y a pas de sanction prévue, en tout cas.
Donc, il y a quand même depuis 50 ans, nous savons que les auditeurs du Conseil d'État ont un délai aussi pour déposer leur rapport, et ce délai est très rarement respecté.
Il y a des sanctions.
Donc, demain, ce sera le cas pour le Conseil d'État lui-même, semblablement. Madame Guffey.
Il est évident, comme les autres experts, ça on a déjà fait, fixer les indemnités. Il est évident que dans ce cas-là, le délai d'un an ne pourra jamais être respecté puisque les experts mettent un certain temps.
La première chose que les experts demandent lors de la séance d'installation, c'est est-ce que vous me dispensez de respecter le délai fixé par le juge?
Oui, mais ici, il est fixé par la loi, c'est vrai que...
C'est fixé par la loi, mais...
Mais sans sanction.
Le délai de rapport, le rapport est aussi fixé.
La tentation risque d'être celle que M. De Haye disait, qui existe à Strasbourg, c'est alors de statuer ex aequo et bono, parce qu'on préférera, pour respecter le délai, pas désigner d'expert judiciaire.
Oui.
Et alors, on statuera...
C'est ce qu'il fera dans un premier temps.
Mais c'est contraire au vœu du législateur, puisqu'il a bien dit que ce n'est ni 1382, ni l'ex aequo et bono.
Non,
mais
ce n'est pas la réparation intégrale, non. Le législateur n'a pas visé la réparation intégrale. Donc,
non,
c'est
non,
effectivement
non, non.
Pour permettre au Conseil d'État d'octroyer une indemnité qui ne sera pas nécessairement... égale à la réparation intégrale et donc éventuellement dispenser la mise.
Tout à fait. Monsieur.
Mon voisin a parlé de l'annulation de mais est-ce que l'arrêt d'annulation ne comporte pas comme première obligation pour l'administration celle de décider à nouveau
sur la demande?
Ben, il faut voir le motif de l'annulation. S'il est totalement contraire au plan d'aménagement, ou s'il y a erreur manifeste, il n'y a pas de réflexion possible. Ça dépend des cas de figure.
Dans tous les cas,
ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il faut craindre, c'est qu'on se contente d'une déclaration d'illégalité sans annuler. Et au bout d'un certain temps, l'étape suivante, ce sera de se dire, mais à quoi sert encore le Conseil d'État ? Parce qu'il travaille comme le juge.
Mais quel serait l'avantage, puisqu'il faut quand même constater l'illégalité, quel serait l'avantage de ne pas demander dans la foulée l'annulation ? Le pas supplémentaire n'est pas...
On n'a pas autorisé le Conseil d'État à faire de simples constats d'illégalité. Il va de toute façon annuler avec éventuellement le maintien des effets. Mais cette disposition-là n'a pas pour effet de dire que le Conseil d'État ne doit pas annuler. Il y a simplement des cas où il va simplement constater l'illégalité. Et comme vous l'avez dit, en fait, on a fait ça pour viser la boucle administrative.
Oui.
Mais on ne va pas simplement, on n'annule pas, tiens, voilà pour toi, petite somme, et tout va bien.
Mais l'intervention de monsieur m'amène une autre réflexion. C'est que parfois, il faut quelques mois, sinon davantage, pour prendre l'acte correct à la suite d'une annulation. Et comment concilier ce délai dont aura besoin l'administration pour refaire correctement les choses et le délai dont disposera le Conseil d'État pour se prononcer sur la demande d'indemnité réparatrice. Parce que l'un dépendra de l'autre.
Oui, mais si l'acte est annulé et qu'il peut être refait par l'administration pour être dommage, il n'y a pas lieu d'octroyer l'indemnité.
C'est bien ce que je veux dire. Il faudra d'abord voir comment l'administration va refaire l'acte pour ensuite voir s'il y a encore un préjudice qui sera autre que purement moral. Oui. Madame Van der Nack, qui est aussi conseiller d'État.
Voilà. Alors, moi, je voulais juste insister sur le fait qu'effectivement, comme mon collègue vient de le dire, il n'y aura pas nécessairement automatiquement réparation. Parce que, enfin, si vous avez bien lu les lois, enfin les réformes, il y a aussi d'autres mesures qui sont données au Conseil d'État, et notamment d'indiquer dans son arrêt comment l'illégalité devra être réparée par l'administration. Et là aussi, avec des délais qui pourront peut-être être imposés à l'administration en disant, voilà, vous avez autant de semaines, de mois pour réparer l'acte illégal, et puis on se revoit. Et on rediscute éventuellement de la conformité ou non de cette réparation avec l'arrêt qui avait ordonné la manière dont la réparation devait être...
Ça, c'est dans la boucle administrative.
Non, ce n'est pas dans la boucle administrative. C'est après, éventuellement. Donc, on n'est pas obligé de passer par une boucle administrative dans toutes les hypothèses. Mais aujourd'hui, on aura la possibilité, lorsqu'une partie nous le demandera, d'indiquer dans notre arrêt comment l'illégalité devra être réparée.
Oui.
Mais entre-temps, dès les 60 jours, a commencé à
couper. Oui, mais on pourra...
La victime aura dû introduire une demande en bonne et due forme de réparation.
Et donc, on pourra organiser, je dirais, des débats intermédiaires avant d'arriver à l'indemnité réparatrice. Et voir comment l'illégalité a effectivement été rencontrée par l'administration.
Mais il suffit qu'elle introduise dans les 60 jours et puis on le peut laisser en veilleuse et reprendre plus tard.
Parce que dans le même arrêt, on pourra ordonner à l'administration qu'en déant un délai, elle devra montrer comment elle a réparé les choses.
Dans ce cas, la séparation des pouvoirs. Si désormais le Conseil d'État dispose du pouvoir de dire à l'administration, vous réparez dans un tel sens, et après nous avons le droit de vérifier si vous avez effectivement réparé.
L'orateur, il y a deux jours, Madame Isemarie, s'est prononcée dans le même sens.
Parce que d'abord, ça dit quelle
est la ligne rouge à ne pas dépasser pour le Conseil d'État, de ne pas franchir le pas, de devenir administrateur et d'engager sa propre responsabilité. J'ai posé la question il y a deux jours de savoir s'il n'y aura pas un jour un procès en responsabilité contre le Conseil d'État, enfin contre l'État belge, mais engagé par le Conseil d'État parce qu'il aurait été trop loin, il aurait dit à l'administration comment il fallait réparer dans le cadre de la boucle administrative, et puis après coup on se rend compte que ça n'a pas été fait correctement, et l'administration a dit « mais moi j'ai fait ce que le Conseil d'État m'a demandé de faire ».
Exact, mais ça permet quand même de réparer l'autre tort qui, à mon avis, est plus dommageable, c'est une annulation du Conseil d'État qui ne sert à rien, parce que de toute façon, l'administration ne bouge pas.
Donc, effectivement, vous avez l'action judiciaire en réparation.
L'action judiciaire en réparation.
Oui.
Oui, bien entendu, mais c'est quand même mieux, plutôt que d'avoir une indemnité, c'est quand même mieux que l'administration fasse convenablement son travail.
Oui, mais comme l'a dit le professeur Glanthorff, le principe au judiciaire, c'est la réparation intégrale, la réparation en nature, d'abord. Et vous avez de plus en plus de juges judiciaires qui osent, ce qu'ils ne faisaient pas il y a 50 ans, condamner l'administration sous peine d'astreinte à prendre tel ou tel acte réparant l'illégalité qui a été commise et sanctionnée par le Conseil d'État.
Il y a aussi une possibilité d'astreinte au Conseil d'État.
On a aussi cette possibilité.
Donc, le Conseil d'État se voit effectivement armé de toute une série d'armes, mais bon, c'est vrai que la meilleure réparation quand même de l'acte illégal, c'est de refaire un acte légal. Et donc, l'indemnité ne vient que lorsque l'acte illégal est en fait impossible de le refaire en acte légal et qu'il y a un dommage qui a été créé et que la légalité d'un nouvel acte ne permet pas de réparer le dommage.
Donc, mais il y a une autre idée qui me traverse l'esprit, et je reviens à ce que je disais il y a un instant à la suite de l'intervention de Mme Van der Nack. Si dans son arrêt, le Conseil d'État indique comment il faudrait réparer et laisse un certain délai, qui sera souvent de plus de 2 mois, de 60 jours. Et si la victime doit, pendant ce temps-là, introduire formellement sa demande d'indemnité réparatrice, n'y a-t-il pas un risque de télescopage? Parce que comment concilier la réparation intégrale en nature induite par l'arrêt du Conseil d'État qui dit comment l'administration doit réparer en nature, ça c'est une réparation intégrale, et la demande d'indemnité réparatrice, alors que le législateur a bien dit, vous ne pouvez pas aller jusqu'à la réparation intégrale. Y a-t-il pas là un risque de contradiction procédurale? Et on peut faire confiance à certains avocats qui vont invoquer ce télescopage et dire, ben non, vous ne pouvez alors plus accorder l'acte refait parce que ce serait une réparation intégrale. Or, il y a eu demande formelle d'indemnité réparatrice. Donc, vous êtes contenté d'indemnité réparatrice, et on rejoint un peu, même si ce n'est pas de la même manière, la préoccupation qu'exprimait M. Levet tout à l'heure.
Attention que, théoriquement en tout cas, l'indemnité de réparatrice peut être une indemnité intégrale. Le législateur ne dit pas que ça ne peut pas être le cas. Il dit qu'il faut prendre en considération les intérêts privés et publics. Alors, on me dira évidemment prendre en considération les intérêts publics, ça ne peut jouer qu'à la baisse. Mais théoriquement,
le contentieux d'urbanisme et de l'environnement, les cas où l'intérêt public est en cause, ça représente peut-être 5% du volume du contentieux. La plupart du temps, ce sont des investissements privés et je ne vois pas où la puissance publique pourrait être mise en cause, et là on devrait s'orienter vers une réparation intégrale.
Alors il y a tout un contentieux qu'on n'a pas du tout évoqué parce qu'on a parlé des fonctionnaires, on a parlé de l'urbanisme, de l'environnement, il y a le contentieux des marchés publics ou des travaux publics, parce qu'en matière d'urbanisme il y a quand même souvent des pouvoirs publics qui se font délivrer des permis pour des travaux publics. Alors, est-ce que le Conseil d'État aura les moyens d'accorder des réparations comme le font les juges judiciaires dans le contentieux des marchés publics, dans le contentieux des travaux publics? où là, vous ne couperez pas, il faudra une expertise. En matière de fonction publique, on peut encore se dire que parfois on peut s'en dispenser. Avec les pièces déposées par les partis, je crois effectivement que le Conseil d'État sera armé pour accorder des réparations sans expertise judiciaire. Mais dans les deux contentieux que j'évoque, là, on ne coupera pas. Et alors là, parfois les expertises durent des années, pour ne pas dire davantage, des lustres.
Oui, ça, le délai de 12 mois, là.
Alors, comment tenir compte des intérêts publics nécessairement, ce sera à la baisse. Alors, y aura-t-il beaucoup de victimes d'actes illégaux, déclarés illégaux par le Conseil d'État, qui oseront prendre le risque de demander l'indemnité réparatrice dans les deux contentieux que je vois?
Par rapport justement au marché public, les contentieux qui sont posés devant le Conseil d'État sont quand même fortement différents du contentieux principal dans les marchés publics qui sont posés devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, dans le sens où devant le Conseil d'État, c'est généralement les décisions d'attribution. Or, devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, c'est plutôt de l'exécution des marchés publics. Et dans le cas de l'exécution des marchés publics, là, je peux facilement concevoir qu'effectivement, les expertises sont des expertises il s'agit d'évaluer le travail effectué, ce qui n'est pas vraiment la tâche du Conseil d'État à ce moment-là.
Mais vous avez quand même un contentieux important au judiciaire qui fait suite à l'annulation d'une décision d'attribution. Et le soumissionnaire évincé demande la réparation de son préjudice. Si on n'est pas en adjudication, alors nécessairement on va à l'expertise financière pour savoir quel est le résultat financier que l'entreprise soumissionnaire évincée aurait pu obtenir si le marché lui avait été attribué. Alors là, c'est des discussions interminables parce que, bien évidemment, l'administration va dire ce n'est que la perte d'une chance et la chance était minime pour telle raison, pour telle autre. Et donc, nécessairement, alors on doit aller à l'expertise judiciaire.
On appelle
ça,
mais pas en adjudication.
Non, pas en adjudication. Mais alors, en adjudication, autre idée, est-ce que le Conseil d'État pourra accorder les 10% d'indemnité intégrale? Est-ce que l'article 11 bis nouveau le permet? Bon, ce n'est pas l'article 1382, c'est vrai. C'est un nouvel article dans la nouvelle législation, mais c'est l'article de la loi sur les marchés publics qui dit que c'est nécessairement 10%.
Excusez-moi, je tourne la question de la perte de l'intérêt au recours après l'annulation, alors qu'une personne la personne a demandé, a sollicité une réparation au Conseil d'État et qu'il y a une mesure de réparation qui intervient ultérieurement, qui a été sollicitée par le Conseil lui-même. Donc le Conseil sollicite après l'annulation une mesure de réparation, une réflexion dans un certain sens. Cette réflexion est opérée et la personne a introduit entre-temps une demande d'indemnisation. Si la réflexion est opérée dans le sens qui a été sollicité par le Conseil d'État, est-ce que cette indemnisation a encore un objet?
On aura un préjudice moral, mais qui risque souvent d'être réduit à 1,50 €.
Et effectivement, la question de la perte de l'intérêt avant l'indemnisation, mais là je pense que...
Ça c'est une autre question que la section de législation avait évoquée et qui n'a pas été rencontrée par le législateur.
Mais il me semble...
Sauf peut-être... Je ne sais pas si les membres du Conseil d'État présents dans la salle y ont déjà songé, mais on pourrait imaginer, en écoutant l'orateur tout à l'heure, je me suis dit, mais peut-être que le Conseil d'État va, de manière prétorienne, forger une jurisprudence qui l'amènera à dire « Vous avez perdu votre intérêt pour telle ou telle raison, mais l'acte était quand même illégal. » Et donc, on a un acte déclarant illégal, un arrêt déclarant illégal l'acte.
Qui
permettrait alors d'introduire...
C'est un peu le pari de
l'existence.
Moi, je ne serais pas contraire à la loi.
Il me semble que cette hypothèse de perte d'intérêt au recours en cours de la première instance, si vous me permettez cette expression, qu'à ce moment-là, le requérant ira directement devant le juge judiciaire sans se poser de questions. Il n'aura plus vraiment le choix, mais à partir du moment où la perte d'intérêt au recours...
Sauf si dans l'arrêt constatant la perte d'intérêt, le Conseil d'État dit vous avez perdu votre intérêt, mais l'acte était quand même illégal, parce que la plupart du temps, c'est dans le rapport de l'auditeur que l'illégalité est constatée, qu'à la suite... De quoi l'administration retire son acte qui entraîne la perte d'intérêt au recours. Et donc, il suffirait de faire un pas supplémentaire que dans l'arrêt constatant la perte d'intérêt, le Conseil d'État constate l'illégalité comme l'auditeur l'avait fait.
Comme on condamne aux dépens la partie adverse dans ce cas-là.
Oui, oui, tout à fait. Monsieur?
J'ai l'impression que vous avez
si je vous ai bien compris, je n'ai pas compris. Quand j'avais posé une question, y a-t-il un problème en absence d'un deuxième degré? Est-ce que ça pose des problèmes? J'ai l'impression, enfin, en lisant l'arrêt du Conseil constitutionnel récent sur l'astreinte, la Cour constitutionnelle dit l'absence de possibilité d'introduire un deuxième degré en matière d'astreinte du Conseil d'État, ça n'est aucun problème. Ça ne pose aucune question, dit la Cour constitutionnelle, pour des raisons qui, selon moi, les mêmes raisons qui justifient l'absence d'un deuxième degré en matière d'indemnité.
Moi, je ne mettrai pas sur le même plan ce qui est l'astreinte, qui est quand même un domaine bien limité, une mesure coercitive d'exécution, quelque chose de bien limité, et alors tout le reste, quoi.
Mais l'astreinte a été considérée à un certain moment par la Cour de cassation comme un problème civil, un problème de droit civil. Maintenant, la Cour constitutionnelle a récemment dit que c'est inhérent au contentieux d'annulation. L'astreinte est une partie intégrante du contentieux d'annulation. Il n'a rien à voir avec le procédé.
Certes, mais quand, dans sa conclusion tout à l'heure, M. Glanzdorf a évoqué ce problème de l'absence d'un double ou même d'un troisième degré de juridiction, je ne crois pas qu'il pensait, enfin, tu me contrediras si je me trompe, à l'inconstitutionnalité de cette absence, mais c'était sur le plan tout à fait pratique de la victime qui se trouvera devant un choix d'autant plus crucial que non seulement ce ne sera pas une réparation vraisemblablement intégrale, mais en plus ce sera un quitte ou double.
Oui. Ce qui peut être un avantage évidemment pour la victime aussi, parce qu'il est évident que si elle obtient une indemnité devant le judiciaire et ça ne plaît pas à l'administration, ça ne lui coûte pas grand chose de faire un appel, d'aller en cassation, et donc la victime n'a jamais son argent. Au Conseil d'État, elle sait qu'elle l'aura.
Jamais, je ne dirais pas, mais plus tard.
Plus tard.
Mais c'est là que l'expérience du civiliste, oui, c'est M. Glanzdorf, montre que l'avocat civiliste hésitera plus d'une fois et tournera ses doigts dans l'encrier ou dans le clavier de l'ordinateur plus d'une fois avant de conseiller de demander l'indemnité réparatrice devant le Conseil d'État.
Alors, oui, je voudrais encore intervenir à propos de l'illégalité des clauses d'exonération. Je crois que la volonté du législateur est clairement d'avoir visé l'illégalité et non pas la faute, précisément pour ne pas, pour que les clauses d'exonération de responsabilité qu'a fortuit force majeure ou faute de la victime ne soient pas prises en considération dès qu'il y a illégalité, il y a possibilité d'octroyer une indemnité. Je pense que c'était la...
C'est comme ça que vous interprétez le passage de l'avis de la section de législation qui parle de la faute de la victime, et en disant, mais peu importe la faute de la victime, ce sera quand même une réparation sans faute.
Oui.
Même si la victime a commis une faute, elle aura droit à sa réparation. C'est comme ça que vous l'interprétez.
Oui.
Ça peut avoir un effet atténuant sur le dommage.
Oui, hein, oui,
les circonstances d'intérêt public et privé,
on peut rentrer
cela par ce biais-là.
Voilà. Oui,
on peut
effectivement aménager les choses. Alors. Parce qu'il faut aussi se rendre compte que, puisqu'il y a l'article 11 qui est précisément l'indemnité sans faute, ça n'aurait pas tellement de sens de remettre la faute dans le 11 bis, puisque de toute façon, lorsqu'il n'y a pas de faute, il y a la possibilité d'obtenir l'indemnité via l'article 11.
Je vous suis bien, c'est sans doute l'intention du législateur, je crois, mais il y a toute la jurisprudence de la Cour de cassation, au départ de la notion d'unicité, faute, illégalité, qui ouvre quand même la porte aux clauses d'exonération, et de plus en plus. Alors, est-ce qu'on peut écarter toute cette jurisprudence-là?
À mon avis, oui, puisqu'on ne recourt pas à la notion de faute, tout simplement d'illégalité.
Oui, mais même dans la jurisprudence de la Cour de cassation de 82, on ne recourt pas à la notion de faute aussi, on dit illégalité égale automatiquement faute.
Sauf.
la faute ne doit pas être prouvée, il suffit de l'illégalité. Mais on prend en considération les causes d'exonération et en particulier l'erreur invincible. Alors est-ce que le législateur ici, est-ce qu'il a songé à ça?
Mais c'est... l'erreur invincible ou la force majeure ou le cas fortuit exonère de la faute, évacue la faute, non?
Non, mais dans cette jurisprudence des années 80 à la Cour de cassation, la cause d'exonération exonère de l'illégalité. Ne parlons même pas de la faute, elle exonère de l'illégalité. Et donc elle permettrait ici, dans notre législation actuelle, à l'administration de dire « mais moi je me prévaux de telle cause d'exonération ».
Oui, mais dans ma jurisprudence de la Cour de cassation, elle part de 1382, où il y a nécessairement une faute. Donc, quand elle constate l'illégalité, puis il y a une clause d'exonération de responsabilité, nécessairement, elle a conclu qu'il y avait une faute, pour dire qu'il y a une clause d'exonération de responsabilité, si elle avait dit qu'il n'y avait pas de faute, pas d'illégalité.
Elle n'a pas conclu qu'il y avait une faute. Elle a dit l'illégalité est en soi une faute, sans qu'il faille démontrer autre chose.
Mais c'est quand même une
faute.
Donc,
c'est une faute. Et si on ne s'intéresse pas à savoir si c'est une faute, et donc la force majeure ou la fortune n'intervient pas.
Vous croyez que c'est là la différence?
Comme il n'y aura pas de pourvoi en cassation contre les arrêts du Conseil d'État en matière, la Cour de cassation ne mettra pas son grain de sel dans la jurisprudence du Conseil d'État.
Je crois ça, aussi que c'est la volonté du législateur, c'est de recourir à des concepts qui ne sont pas les mêmes que ceux de la responsabilité civile, précisément pour éviter des conflits de jurisprudence.
Oui, je n'exclurais pas aussi vite la compétence de la Cour de cassation, parce que effectivement, si notre jurisprudence, si une partie adverse estime que la réparation que nous avons accordée à la victime est une réparation de type intégral, est-ce que la partie adverse ne pourrait pas, sur la base de l'article de la Constitution qui confie à la Cour de cassation le conflit d'attribution, saisir la Cour de cassation et évoquer un conflit de compétence entre le Conseil d'État et la Cour de cassation?
Je ne crois pas. Je ne crois pas précisément parce que maintenant, la Cour de cassation, on est parfois un peu surpris de ce que vous pensez d'État, c'est vrai.
Certains avocats, à mon avis,
ils sont tentés. Ah, ça, certainement.
Ils ne parleraient pas.
Mais comme.
Mais
comme M. Gainsdorf le disait, je crois effectivement qu'il a raison, la loi n'exclut pas la réparation intégrale. Ce n'est pas parce que la réparation est intégrale que ce serait une application de 1382.
Voilà, c'est ce que je pense.
Décourageons les tentations qui pourraient se manifester dans la salle, par exemple. Plus de questions?
Oui, j'ai encore une question. Vous avez évoqué les deux cas de responsabilité de l'État. D'une part, quand il y a un acte illégal, d'autre part, simplement l'attitude de l'administration. Mais dans mon esprit, ce cas-là, de toute façon, ne vient pas devant le Conseil d'État, parce qu'il faut nécessairement un acte illégal pour que le Conseil d'État y reconnaisse. Donc on ne vise pas ce...
Oui.
C'est inconduit.
Peut-être que sans le vouloir ou sans le savoir, M. Gainsdorf a peut-être évoqué la jurisprudence de certaines chambres flamandes qui ont annulé un acte parce qu'il était contraire au principe du raisonnable. Le principe du raisonnable, c'est la faute, hein.
Ou un acte qui crée une apparence trompeuse, par exemple.
Ou les principes de bonne administration, même du côté francophone, il y a l'un ou l'autre arrêt qui ont annulé pour violation des principes de bonne administration. Qu'est-ce que c'est si ce n'est la faute?
C'est un acte illégal si on fait un principe général de bonne administration.
Non, parce que la plupart des arrêts francophones, en tout cas, visent le principe général de droit de l'examen sérieux, le principe général de droit de l'audition du justiciable, en le définissant de manière précise. Mais viser la violation du principe de bonne administration sans autre précision, pour moi, ça revient au même que de dire que vous avez commis une faute.
Oui, mais quand on vise l'égalité, on vise aussi un acte qui est contraire au principe général de bonne administration.
À tel principe général de droit, bien dégagé.
Oui, bien dégagé. Ouais.
Vous voyez, l'ouvrage de M. Jobot dans la matière qui s'est autorisé. Bon, d'autres questions? Plus de questions? Eh bien, encore une fois, merci beaucoup.
bon week-end à tous et ceux qui doivent continuer leur formulaire demandent à l'extérieur.